Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, L'identité de la France, de l'historien Fernand Braudel. Ce livre pourrait porter comme sous-titre « La France, une économie paysanne », l'expression ne désignant pas l'agriculture en soi, mais une forme d'économie globale où la vie rurale est encore dominante par rapport aux autres activités, industrielles et commerciales, qui l'accompagnent nécessairement et qui d'ailleurs vont grandir et se développer à ses dépens. Tous les pays d'Europe ont vécu des siècles durant en économie paysanne, et tous s'en sont dégagés plus ou moins vite, la France plus lentement que quelques autres. Fermement convaincu de l'unicité profonde des sciences humaines, Fernand Braudel est l'un des représentants les plus populaires de l'école des annales et marque durablement les historiographies françaises et internationales par la définition de concepts dits brodéliens, l'étagement des temporalités, la longue durée ou encore la civilisation matérielle sont des prismes à travers lesquels il observe le monde et dépasse très largement l'histoire traditionnelle en ouvrant sur des sciences telles que la géographie, l'économie, l'ethnologie, la sociologie ou encore l'archéologie. Fernand Braudel est né le 24 août 1902 à Luméville-en-Ornois, à une quarantaine de kilomètres au sud de Bar-le-Duc, la préfecture de la Meuse, en Lorraine. Il passe son enfance chez sa grand-mère à Lunéville-en-Ornois. De ce village d'avant la révolution industrielle et de cette enfance à la campagne, il garde jusqu'à la fin de sa vie un souvenir ému et s'estime toujours de souche paysanne. En 1909, il rejoint son père instituteur pour suivre sa scolarité à Paris. Il est élève au lycée Voltaire de 1913 à 1920. La Moselle et l'Alsace, appartenant alors à l'Allemagne, c'est dans une ambiance nationaliste que grandit Fernand Braudel. Il a 12 ans en 1914 et c'est dans un patriotisme exalté qu'il passe les années de la Première Guerre mondiale. Ses premières intentions sont de se destiner à la médecine, mais ses projets sont contrecarrés par son père. En 1920, il est en proie à l'incertitude concernant sa carrière. Il nourrit alors l'ambition de devenir professeur au lycée de Bar-le-Duc. Il fait ses études supérieures à la Sorbonne. C'est là qu'il rencontre son maître, qu'il considère comme son éveilleur à l'histoire, Henri Hauser, qui est son professeur. Il est reçu à l'agrégation en 1923. C'est la science géographique française qui influence Fernand Braudel. Celle-ci est dans les années 1920 la science de pointe et ses chercheurs, Édouard Suess, Emmanuel de Margerie et surtout Paul Vidal de Lablache, font alors des avancées capitales. La géographie est d'ailleurs à l'origine de ses trois œuvres majeures, la Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, civilisation matérielle, économie et capitalisme, et enfin, l'identité de la France. Enfin, l'autre grande rencontre intellectuelle se produit en 1924. Il lit « La Terre et l'évolution humaine » de Lucien Febvre, paru en 1922, le futur fondateur de la revue « Annales d'histoire économique et sociale » à l'origine de l'école des Annales, qui joue dans sa vie un rôle considérable. Son arrivée en Algérie, au lycée de Constantine, scelle le lien affectif qu'il noue avec la Méditerranée. Il découvre Alger, qui est à cette époque la vitrine coloniale de la France, le désert, les paysages méditerranéens. Il se révèle bon pédagogue, enseigne d'abord à Constantine, puis à Alger à partir de 1924. Son activité d'enseignant est interrompue par son service militaire, qu'il effectue en Allemagne d'avril 1925 à octobre 1926. Il travaille à Alger jusqu'en 1932, au Grand Lycée d'Alger d'abord, puis à la faculté comme professeur auxiliaire. La mort de son père survient en 1927. Et c'est à cette date qu'il recueille sa mère et qu'il se marie une première fois le 27 octobre 1927 avec Paulette Vallier. L'année 1927 marque également son inscription en thèse. Cette dernière se veut très classique dans son sujet. Elle doit porter sur Philippe II et la politique espagnole en Méditerranée de 1559 à 1574. Il est nommé professeur à Paris en 1932 et se met à exercer dans un climat universitaire unanimement hostile à cette nouvelle histoire incarnée par les annales. Il enseigne tour à tour au lycée Pasteur à Neuilly-sur-Seine, puis Condorcet et Henri IV à Paris. À l'été 1933, après son divorce d'avec Paulette Vallier, il se marie avec Paul Pradel. Continuant de travailler dans les archives, italiennes notamment, il apprend en 1934 qu'il est désigné pour aller enseigner au Brésil, à la faculté de Sao Paulo. L'objectif de la diplomatie française est alors d'aider le Brésil à se doter d'une faculté de lettres, sciences et philosophie. C'est donc tout un groupe de jeunes professeurs, parmi lesquels Claude Lévi-Strauss, Jean Mauguet, Pierre Monbègue, qui partent avec Braudel pour l'autre côté de l'Atlantique. Il présente sa candidature pour entrer à la 4e section de l'École pratique des études en 1937 et y est élu. C'est sur le bateau qu'il ramène du Brésil qu'il rencontre pour la première fois personnellement Lucien Febvre, de retour d'une série de conférences en Argentine. Cette rencontre est capitale pour les deux hommes, déterminante. Avancé dans sa thèse, ayant réuni une documentation considérable, il est cependant mobilisé à l'été 1938, à la suite de la crise des Sudètes, et c'est la Seconde Guerre mondiale et la captivité qui lui permettent d'accoucher intellectuellement et de structurer le concept brodélien. Mobilisé, il est lieutenant d'artillerie affecté sur la ligne Maginot entre Wissembourg et Haguenau. Les événements se déroulent, drôle de guerre, percée allemande, invasion, effondrement français, mais il n'a jamais l'occasion de prendre part au combat. Il est fait prisonnier 7 jours après l'armistice, le 29 juin 1940. Il commence son long séjour en captivité à Auflac 12B de Mayence, au sein duquel de nombreux prisonniers français, subjugué par la victoire allemande, s'accommode vite du maréchal Pétain. Peut-être pour résister à l'abattement, ou peut-être par tempérament personnel, il s'improvise recteur et donne des conférences à ses camarades, engage tant bien que mal une correspondance nourrie avec Lucien Febvre, resté en France, et se remet au travail sur sa thèse. Quoi qu'il en soit, il travaille sérieusement à la rédaction de sa thèse, dont il multiplie les versions. Le chercheur effectue le travail de mémoire, loin de ses fiches restées à Paris et loin de toute bibliothèque de recherche. Braudel est transféré en juin 1942 au camp disciplinaire de Lübeck, où ses conditions physiques et matérielles se dégradent. Loin de se décourager, c'est dans ce camp qu'il termine la rédaction de la Méditerranée, tout en continuant sa correspondance avec Lucien Febvre, qui essaye de garantir la position de Braudel, ainsi que l'intégralité de ses fiches et de ses ouvrages à Paris. Le camp de Lübeck est libéré au début de mai 1945. Fernand Braudel est à Paris le 26 mai 1945. Accueilli par Febvre, il est hébergé chez lui et c'est là qu'il porte les touches finales à sa thèse. Fait les ultimes vérifications après avoir repris possession de ses fiches et de ses ouvrages, il la dépose cette fois pour de bon à l'impression en mai 1946. L'autre dernière intervention, en octobre 1985, peut être perçue comme un cycle enfin bouclé, il s'agit d'un cours donné à de jeunes élèves d'un collège de Château-Vallon, portant sur le siège de la ville en 1707. Fernand Braudel meurt le 27 novembre 1985, à l'âge de 83 ans, à Cluses, en Haute-Savoie, et est inhumé au cimetière du Père-Lachaise, 32e division. Sa femme, Paul Braudel, mourra le 2 janvier 2017. Maïs, arrivé très tôt en Pays Basque, ne s'est installé de façon visible et utile durant le dernier quart du XVIIe siècle en Aquitaine et avant tout autour de Toulouse. mais il s'impose et obtient une place de choix. Il sait se rendre indispensable. Le grain jaune, en effet, aura littéralement sauvé le Midi des disettes et des famines de l'âge baroque, en dépit des récriminations, ainsi en pays Saint-Ongé, des propriétaires de vignobles qui voient à son profit fuir une main-d'œuvre bon marché. À la fin du XVIIIe siècle, on chante encore ses louanges. Le maïs ou gros blé, blé de Turquie, plante volumineuse en tiges, en feuilles et en grains, abondante en corps muqueux, aime aussi les bons terrains. Mais elle tire de l'atmosphère la plus grande partie de sa subsistance. La semence se centuple, ses débris considérables font du fumier, les tiges et les feuilles superflues fournissent un bon fourrage aux bœufs. Le grain qui en provient sert à un très grand nombre d'usages économiques pour les hommes, pour les volailles, pour les cochons, même pour les gros bestiaux. Le maïs semé comme fourrage sur le chaume donnerait au printemps et dans l'été plusieurs coupes ou un excellent pâturage. Cette dernière solution vaut encore aujourd'hui, mais le maïs compte avant tout pour son grain. Le Midi, à seulement biennale, a trouvé en lui la céréale de printemps qui jusque-là lui avait manqué et un supplément de nourriture inestimable pour les animaux, acceptable pour les humains. Le paysan s'y résigne chaque fois qu'il a besoin d'augmenter ses revenus. Il réserve alors au marché sa récolte de froment. C'est grâce au maïs que Toulouse est devenue une très grande ville spécialisée dans le commerce des grains, et tout spécialement du blé. Notez que, plante méridionale, le maïs n'a pu s'étendre en France que récemment, grâce à la création d'hybrides adaptés au froid. Ne croyons donc pas trop au schéma simple de deux France rurales, réduites à leurs systèmes culturaux. D'ailleurs, les géographes nous ont appris à ajouter au problème des assolements le problème des régimes agraires, on dit parfois des paysages agraires. Les agronomes ont raison, quant à eux, de tout confondre et de parler sans plus de structure agraire, c'est-à-dire d'ensemble, de tous de longue durée. Si l'on ouvre la porte à ces autres éléments, il n'y en a pas deux, mais trois France rurales pour le moins. La première est la France du Nord-Ouest et du Nord-Est, celle des champs ouverts, l'open field des historiens, géographes et agronomes anglais. Le village massif, serré sur lui-même, y occupe le centre d'une clairière sans arbres, sans haies, souvent même sans clôture. Les saisons y sont les secteurs d'un cercle dont le village compact est le centre, aboutissement et point de départ, et elles se distinguent à l'œil nu d'après leurs couleurs différentes. Les champs se présentent en longues lanières qui évoquent assez bien les lames d'un parquet. C'est sûrement le paysage que je connais le mieux et sans doute est-il de tous le plus facile à être reconnu et compris. J'ai gardé le souvenir en juillet 1945, revenant par avion d'Allemagne en France après avoir traversé les étranges marécages de Bourgogne, d'avoir brusquement, le décor changeant vite, survolé les parcellaires de Picardie, alors de toutes les couleurs, divisées en bandes étroites, aux limites nettes, tirées au cordeau, chacune de façon et portant une plantation régulière, bien en ordre, comme époustée, le clocher de l'église marquant les ralliements. J'étais de retour chez moi. Pour cet open field discipliné, communautaire, il y a à l'évidence coïncidence étroite entre son extension et celle de l'assolement triennal, des champs ouverts et des trois sols bien malins qui déciderait du processus qui a mis tout cela en branle. La seconde France, celle de l'Ouest et du Centre, c'est la France des bocages. Ne croyez pas trop à sa monotonie et à son uniformité. Il y a bocage et bocage, et les distinctions nécessaires sont multiples. Dans la Mayenne et le Maine-et-Loire, pour ne prendre que ces exemples, mais ils valent pour plusieurs autres, les champs sont bordés de grandes haies, pleines de toutes sortes d'arbres, plantées sur des talus. L'intérieur de cet enclos est le plus souvent complanté de pommiers et de poiriers, à cidre, ce qui donne à l'ensemble l'aspect d'une immense forêt. Les exploitations ont en moyenne une étendue de 30 à 40 hectares. et l'année de beaucoup plus petite, de 10 à 12 hectares seulement, qu'on appelle des closeries, parce qu'elles se forment d'un seul clos. Cette image rapide, qui date du milieu du XIXe siècle, est empruntée à l'ouvrage toujours utile de Léonce de Lavergne. Il faudrait ajouter à ce tableau succinct les chemins creux, les landes marécageuses de Genêt et d'Ajon, et surtout bien préciser que l'aspect boisé est un faux aspect, une apparence, un semblant. L'arbre n'est ici qu'un complément, qu'un instrument de division. Vu d'une hauteur, il n'y en avait pas alors, vers 1870, d'avion pour mieux voir les paysages, le Léon, morceau caractéristique de la Bretagne, ressemble, au dire, une fois de plus, de Léonce de Lavergne, à un casier divisé en d'innombrables compartiments. La plus malaisée à définir, c'est la Troisième France, celle du Sud-Est, de part et d'autre de la vallée de Saône-Rhône, cette fente gigantesque ouverte de la Méditerranée aux Vosges, entre les Alpes de Savoie, du Dauphiné et de Provence, le Massif central, les Pyrénées. Au total, des régions bien différentes, végétation, rythmes culturaux, plantes, arbres, activités, tout change, pourvu que l'on s'y déplace un peu. Dans le schéma explicatif de Marc Bloch, mais je ne ferai pas mieux que lui, c'est l'ensemble régional qui a été le moins bien saisi par ses originalités. Jugez-en, l'essentiel, en ce qui le concerne, ce n'est pas le régime céréalier à deux temps qui l'envahit et semble commander. Ce n'est pas non plus le régime des champs épais, rectangulaires, massifs, qui rappellerait les centuriations romaines souvent rencontrées. C'est plutôt la masse des zones neutres et désertiques, des hermes, des terres gastes abandonnées après un usage précaire, quand usage il y a eu. Un homme du Nord est stupéfait, dérouté par ces vides où règnent les pierrailles nues, les arbustes de la garrigue, les cigales et le gibier, et les senteurs des herbes aromatiques. Quant aux cultures, elles sont aussi variées que les sols et le paysage. Aussi fort que le blé, l'arbre fruitier s'y affirme, occupe le terrain à la moindre possibilité. Aux hautes altitudes, le châtaignier, le noyer, plus bas l'olivier, l'arbre providence, et non moins les mûriers, les figuiers, les pommiers, les noisetiers, les cerisiers. Enfin, les amandiers dont l'imprudence est proverbiale, puisqu'ils ouvrent leurs fleurs avant la fin de l'hiver, mais le risque est léger sur la côte de Méditerranée où les gelées sont rares. Près de Hyères, de Cannes, de Toulon, des orangers et des palmiers poussent en pleine terre, comme à Sorrente en Italie. Sauf que, de temps à autre, une nappe subite de froidure et de gel vient tout gâter, capable de faire éclater jusqu'aux troncs noueux des oliviers et des chênes. Parmi les cultures autorisées par le climat, voyez la splendeur des plantations jadis sur les terrasses. Splendeur, par-dessus tout, des vallées largement ouvertes, que ce soit le cours inférieur de l'Isère, les vallées des Pyrénées-Orientales ou la vallée provençale de l'Argens, en arrière des Maures et de l'Esterel, dont Lavergne s'étonne que sur un espace de quelques mètres carrés, on voit en même temps des arbres fruitiers, des oliviers, des mûriers, des blés, des légumes, des pêchers, des vignes, des fleurs. Entre les rangs de ceps, des légumes, des pêchers et même des oliviers dont la culture se marie mal, pourtant avec celle de la vigne. Au long de l'Isère, dans la vallée du Grésivaudan, un éternel printemps est en face d'un éternel hiver, celui des montagnes. Des champs complantés de mûriers, de cerisiers, des vignes montant aux arbres. Sous leur ombrage, le froment, l'orge, le maïs, les pommes de terre, le chanvre, le colza, le trèfle, la luzerne, le sarrasin. Un spectacle vu au temps du Second Empire. Dernier trait, presque partout des villes, des bourgs, de gros villages à revendre. Tout, certes, n'est pas richesse dans ces régions ensoleillées, souvent desséchées en été, où les troupeaux sont trop peu nombreux et l'engrais par suite insuffisant. Les pays riches y sont souvent étroits, au rez-de-chaussée des plaines, et toute une série de marges montagneuses les entourent, les surplombent, colonisées, exploitées par la richesse d'en bas, soit le Languedoc, soit la Provence des vignes et du blé. Bref, s'il faut dire l'essentiel en quelques lignes, définissons la région du Triennal comme l'effort maximum pour saisir au maximum la terre arable. Vive la guerre, abat le saltus. Cette conquête de l'espace cultivable s'est faite par un jeu collectif, par le triomphe de l'ordre. Mais ce triomphe entraîne des conséquences inévitables, nous le verrons. Dans la zone du Biennal, par contre, le saltus conserve ses droits. L'arbre y est partout, soit dans les bocages, soit dans le Midi, une série de pays arborés, dit-on. Et ces arbres sont, presque sans entretien, un apport important. La brièveté de la saison froide permet aussi la variété et l'abondance des cultures de légumes, une sorte d'autosuffisance alimentaire. Ainsi, hors du triennal, les libertés d'agir seraient plus grandes. L'individualisme maçonnaise, état d'esprit, paysages ruraux se correspondent, responsables les uns des autres, et selon la réciprocité des perspectives, causes et conséquences s'inversent. C'était la chronique littéraire de Gilles Labouroir. À bientôt.